VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du lundi 14 décembre 2015. Au sommaire ce soir...
République centrafricaine, le référendum constitutionnel s'est poursuivi exceptionnellement dans les zones touchées hier par des violences. Pour notre envoyé spécial...
Le premier fait marquant de cette journée électorale, évidemment, c'est la violence qu'il y a eu dans le quartier de PK5, un quartier où vivent les derniers musulmans de la capitale.
Tatiana Mosso nous rejoint en direct dans un instant.
Burundi, sur fond de violence et d'insécurité, le procès de 28 officiers accusés dans le coup d'État avorté de mai dernier s'ouvre à Bujumbura.
Trois ministres des Finances en une semaine. Mais qu'est-ce qui se passe donc en Afrique du Sud ?
Je pense que ça ne vient que renforcer une perception déjà négative que les Sud-Africains ont de leur président.
Une analyse à suivre avec le professeur David Zunmenou-Dossou.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Référendum constitutionnel en RCA, la population a voté hier, sauf dans certains secteurs de Bangui, où l'insécurité a interrompu le processus, et dans des villes de province, où le groupe armé de Noureddin Adam a empêché le déroulement du scrutin. Pour une mise à jour sur la situation, d'autant qu'il y avait encore des réunions cet après-midi à Bangui, nous avons en ligne Tatiana Mosso. Salut Tatiana.
Bonjour.
Alors, cette seconde journée électorale, si l'on peut dire ainsi, a pris fin.
Alors oui, effectivement, cette seconde journée de rattrapage, on va dire, a pris fin. Les horaires étaient les mêmes que celles annoncées hier, c'est-à-dire que les bureaux de vote étaient ouverts de 7h du matin, de 8h du matin jusqu'à au moins 16h30 aujourd'hui. Il faudra attendre encore au moins jusqu'à demain pour pouvoir compiler tous les résultats, mais au moins la majorité de ceux qui voulaient voter, notamment au PK5, ont pu le faire. Dans l'intérieur du pays, les résultats sont encore attendu parce que la situation ne s'est pas développée aussi facilement qu'elle aurait pu l'être pour des problèmes d'insécurité, comme vous l'avez dit.
Il y avait des problèmes hier, on a enregistré au moins 2 morts et 20 de blessés. Aujourd'hui, Tatiana, à Bangui, c'était calme ?
Alors aujourd'hui à Bangui, ça a été calme. Il faut savoir que les forces de sécurité ont renforcé les quelques bureaux. Et ce n'est pas tout Bangui qui votait encore aujourd'hui, il faut être bien précis. Il y avait certains centres de vote, notamment au PK5. Certains centres de vote étaient encore ouverts. La MINUSCA ainsi que les autorités centrafricaines avaient fait en sorte que les scrutins de rattrapage, on pourrait les appeler ainsi, soient encadrés au maximum, au moins ici dans la capitale.
Merci Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Bangui. Nous reviendrons sur les élections pour ce référendum en Centrafrique en seconde partie d'émission.
Au Burundi, ouverture du procès de 28 officiers accusés dans le coup d'État avorté en mai dernier. Un procès qui met en relief la profonde division de l'armée burundaise. Idriss Fall.
Un de leurs avocats, Maître Onésime Kabaya-Baya, a déclaré que le procès s'est ouvert à Gitega, dans le centre du pays. Il précise qu'il n'a pas pu parler à ses clients ni accéder à leur dossier. Agnès Bangiri Tchenge, porte-parole du ministère de la Justice, dit que le groupe est accusé d'avoir tenté de renverser les institutions et d'avoir perpétré des assassinats et d'autres actes de violence. Parmi les accusés, le général Cyril Ndaï Roukié, ancien ministre de la Défense, et 5 autres généraux, dont le colonel à la retraite Bosco Daradangwa. Plusieurs leaders du coup d'État avorté du 13 mai dernier sont toujours en fuite. Depuis l'échec de ce putsch, le général Godefroy Niyombare n'est pas réapparu en public et n'a fait aucune déclaration. Mais le général Léonard Nganda Komana assure qu'ils n'ont pas baissé les bras et chercheront à renverser le président Pierre Nkurunziza. Vendredi, des combats ont opposé les loyalistes et les insurgés dans la capitale. Près de 90 personnes sont mortes, des civils pour la plupart.
Le président congolais Joseph Kabila a prononcé aujourd'hui son discours annuel devant les parlementaires réunis en congrès. Roger Kalala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, nous en dit plus.
Parlant des élections qui doivent être organisées l'année prochaine, le président de la République a évoqué des changements à effectuer sur les modalités de vote. Il s'est prononcé pour le vote électronique qui permettrait de réduire substantiellement le coût des opérations électorales. À propos du dialogue national réclamé par l'UDPS, le parti de Tshien Tshisekedi qui exige qu'il soit convoqué par le facilitateur qui doit être désigné par les Nations Unies, Joseph Kabila a souligné que les solutions du pays ne viendront pas des Nations Unies.
Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes, mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais.
Sur le plan sécuritaire, le président de la République a reconnu la présence de quelques groupes armés qui sèment encore l'insécurité à l'est de la RDC. Roger Kalala de Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins un civil et trois militaires ont été tués hier soir lors d'une attaque à Oicha, dans le territoire de Beni. Assaut attribué aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, d'après l'AFP, citant des sources concordantes. L'attaque aurait duré trois heures jusqu'à ce que les assaillants soient repoussés par l'armée congolaise.
Le mouvement chiite du Nigeria accuse les troupes nigérianes d'avoir tué plusieurs centaines de ses membres dans la ville de Zaria, située au nord du pays. D'autres sources parlent de 20 morts. Salwa Jafari.
Tout a commencé, selon la version des militaires en tout cas, quand les membres du mouvement islamique du Nigeria ont monté des barricades, puis commencé à jeter des pierres sur le convoi du chef d'état-major. Tentative d'assassinat, selon l'armée, ce qui expliquerait l'opération d'envergure qui suivit. Parmi les victimes, l'épouse et les deux fils du leader du mouvement, Ibrahim Zakzaki. Il faut dire que les tensions entre chiites et militaires ne datent pas d'hier. Zakzaki lui-même a été emprisonné à plusieurs reprises. Le président du Forum des médias du mouvement islamique du Nigeria a affirmé, selon la presse locale, que le siège du Forum ainsi que la résidence du chef chiite ont été détruits. Ces meurtres étaient si brutaux, même les personnes blessées dans la fusillade ont été identifiées et tuées de sang-froid par des soldats, peut-on lire sur le communiqué du groupe. Le mouvement islamique du Nigeria est minoritaire dans ce pays où plus de 4 musulmans sur 5 sont sunnites. En juillet 2014, un accrochage entre l'armée nigériane et le mouvement islamique du Nigeria avait déjà causé une trentaine de morts du côté du groupe chiite.
Attaque contre le nouveau siège du parti au pouvoir, un site qui est encore en chantier à Niamey. Un policier a été blessé par trois hommes armés de fusils d'assaut, a indiqué la police nigérienne. On ignore pour le moment le mobile de cette attaque.
Prestation de serment du président Alpha Condé en Guinée. Plus de 10 chefs d'État africains ont fait le déplacement aujourd'hui à Conakry pour assister à la cérémonie. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, chargé de juger les responsables du génocide de 1994, a rendu aujourd'hui son ultime verdict. Pauline Nyiramasuhuko, l'ex-ministre rwandaise de la famille, seule femme jugée par le TPIR, a ainsi bénéficié d'une réduction de peine en appel. Elle a écopé de 47 ans d'emprisonnement au lieu de la perpétuité. 5 autres personnes ont également vu leur peine réduite.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un reste du monde, crash d'un avion de touristes russes dans le Sinaï le 31 octobre dernier. L'Égypte réaffirme ne pas avoir de preuves qu'un attentat à la bombe est à l'origine de l'incident qui a fait, souvenez-vous, 224 morts. Les enquêteurs russes prétendent le contraire, de même que la branche égyptienne du groupe État islamique qui dit avoir placé une petite bombe à l'intérieur de l'appareil.
Une quinzaine de personnes ont été blessées, dont un bébé d'environ un an gravement, ce lundi à Jérusalem-Ouest, dans une nouvelle attaque à la voiture Bélier, dont l'auteur palestinien a été abattu. Selon la police, 11 autres personnes ont été légèrement blessées. Jérusalem avait déjà été le théâtre d'une attaque à la voiture Bélier le 6 décembre. 3 personnes avaient alors été blessées.
Deux tiers des Palestiniens sont favorables à un soulèvement armé de type Intifada plutôt qu'aux négociations avec les Israéliens pour faire avancer leur cause. C'est ce qu'indique un sondage publié aujourd'hui. Les territoires palestiniens et Israël sont en proie depuis des semaines à des violences qui ont fait 117 morts palestiniens, 17 israéliens ainsi qu'un Américain et un Érythréen selon un décompte de l'AFP.
heurts entre la police et des manifestants procurent en Turquie des protestataires dont plusieurs députés qui dénonçaient le couvre-feu dans un quartier de Diyarbakir ont tenté d'entrer dans le district de Sur, théâtre depuis le début du mois de violents affrontements entre les forces de sécurité et des jeunes partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Leur cortège a été repoussé par la police avec des grenades lacrymogènes et des canons à eau. Au moins 2 personnes ont été blessées et une quarantaine d'autres arrêtées, a ajouté le journaliste de l'AFP.
Le président chinois Xi Jinping a salué aujourd'hui l'accord intervenu à l'issue de la conférence de Paris sur le climat, y voyant un signal important pour la gouvernance mondiale. Il s'est ainsi exprimé durant un entretien téléphonique avec le président François Hollande, a appris l'AFP auprès de l'Élysée. Le G20, qui se tiendra en septembre en Chine, doit jouer un rôle positif dans la mise en œuvre de cet accord, a encore souligné Xi Jinping. La Chine est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a renvoyé dimanche son ministre des Finances, David Van Rouwen, 4 jours après une nomination qui avait provoqué des soubresauts sur le marché, a annoncé la présidence. C'est un ancien titulaire du poste, Bravin Gordhan, déjà ministre des Finances pendant 5 ans jusqu'en 2014, qui a été renommé pour remplacer David Van Rouwen. Critiqué par les analystes et dans les médias, la décision de Zuma avait plongé l'économie sud-africaine dans l'incertitude. On reste en Afrique du Sud pour signaler que Tiger Brands va revendre sa filiale nigériane à Dangote. Racheté pour environ 200 millions de dollars en 2012, le groupe agroalimentaire va revendre ses 65,7% du capital au groupe du magnat nigérien Ali Dangote, leur ancien actionnaire majoritaire, pour 1 dollar symbolique. Mais le milliardaire nigérian devra injecter immédiatement dans la société la somme de 10 milliards de naira, soit environ 50 millions de dollars. Dans le secteur minier, le Sénégal veut relancer le projet Falémé. Selon le magazine Jeune Afrique, et malgré une conjoncture très défavorable pour les mines de fer, Dakar multiplie les initiatives pour relancer le projet de Falémé.
C'était la Minute Éco. Merci, John.
De John à Eric. Eric Manirakiza, pour être plus précis, salut.
Salut.
On va parler de sport cette fois-ci, football, mondial des clubs, le tout-puissant Mazembe, arrosé.
Devenu le moins puissant, en tout cas ce dimanche, une déception, le Mazembe a encaissé 3-0 devant Sanfrecce Hiroshima du Japon, une équipe pourtant jugée la plus faible avant la compétition, Gabi. Et le TP Mazembe jouera mercredi le match de classement pour la 5e place contre Club América de Mexico. L'exploit de 2010 ne sera pas réédité.
Supercoupe du Mali, victoire du stade malien.
Le stade malien de Bamako a battu les 11 créateurs de Niarela. 4 tirs au but à 2 après le temps réglementaire. Le score était nul. C'était hier au stade Mamadou Konaté à Bamako.
Toujours en Afrique, on connaît les postulants au titre de joueur et d'entraîneur africain de l'année.
La Confédération africaine CAF l'a annoncé aujourd'hui. Yaya Touré quadruple lauréat en titre. Le Ghanéen André Ayew et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund sont les 3 prétendants dans la catégorie des joueurs qui évoluent en dehors du continent.
Et pour le prix du joueur évoluant en Afrique?
Les 3 finalistes sont Bagdad Bounedjad, qui joue à l'Étoile du Sahel. Il est algérien. Bouana Ali Samata, tanzanien de TP Mazembe. Et Robert Kidiaba, ivoirien du tout-puissant Mazembe.
Et côté entraîneur?
L'entraîneur de l'année sera à choisir entre Baïba du Mali, Emmanuel Amunike, Nigeria, Fawzi Benzarti, étoile sportive du Sahel, Hervé Renard, Côte d'Ivoire et Patrice Carteron, TP Mazembe. C'est le 7 janvier 2016 qui seront désignés à Abuja au Nigeria.
Scandale, corruption, dopage, l'antipodium du sport en 2015.
Oui, ça ne manque pas d'imagination. Gabi, plus vite l'enchaînement des scandales, plus haut le niveau de corruption, plus fort le scepticisme envers les supposées valeurs du sport. 3 mots pour décrire ce qui se passe. Gabi, plus vite, plus haut, plus fort. C'est impressionnant.
C'est comme pour les Jeux Olympiques.
Ah oui, une succession inédite d'affaires judiciaires qui a secoué l'année sportive. Toutes rebondiront en 2016.
Et en basket, nous dirons que Miami a battu Memphis, Toronto a battu Philadelphie. Et je crois que Oklahoma a bien joué face à Utah.
Ah oui, et Phoenix a battu Minnesota. Et bien Cleveland dans la conférence Est est premier, Toronto deuxième, Golden State premier à l'Ouest, et San Antonio en deuxième position.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, la Centrafrique.
Oui, la Centrafrique a tenu un référendum constitutionnel hier dimanche. La population a donc voté, sauf dans certains secteurs de Bangui où l'insécurité avait interrompu le processus et dans des villes de province où le groupe armé de Noureddine Adam a empêché le déroulement du scrutin. Donc on a dû voter à nouveau dans certains endroits de Bangui aujourd'hui. Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale sur place, revient sur les faits marquants de la journée électorale de dimanche.
Alors, le premier fait marquant de cette journée électorale, évidemment, c'est la violence qu'il y a eu dans le quartier de PK5, un quartier où vivent les derniers musulmans de la capitale, un quartier où les bulletins de vote ainsi que tout le matériel électoral a été acheminé très tard, d'où une ouverture tardive, un quartier où il y a eu des coups de feu nourris pendant quasiment la moitié de l'après-midi, même des hauts gradés de la MINUSCA qui se sont rendus sur place ainsi que des officiels centrafricains se sont retrouvés pris entre deux feux, parce qu'il faut bien comprendre qu'au PK5, à ce moment-là, il y avait une partie des habitants qui votaient oui pour la Constitution, qui avaient envie de voter du moins, et d'autres qui voulaient s'opposer au vote, donc ils ont semé des troubles qu'on aura retenus aussi dans le reste du pays, comme par exemple dans les villes de Bria ou encore de Kagabandoro. Et on peut aussi mentionner la ville de Bossangoa où le matériel électoral n'a pas pu être mis en place parce que d'autres gens se sont aussi opposés en armes, bien entendu, se sont aussi opposés au vote.
Alors, quel impact cette situation aura sur le référendum, sur sa crédibilité ?
Alors, il faut savoir que ce référendum devait servir de test, un test grandeur nature pour les autorités de transition qui souhaitent aller aux élections et ainsi mettre fin à cette période de transition. Il faut noter que le plus important, c'était aussi que de pouvoir réunir tout le fichier électoral centrafricain. Beaucoup de citoyens n'ont pas pu aller se rendre aux urnes, un, pour des moyens, pour des raisons sécuritaires, et deuxièmement, pour des raisons techniques, parce que beaucoup n'avaient que des récépissés, d'autres n'avaient pas compris l'enjeu de ce scrutin, l'enjeu de ce référendum, puisque certains pouvaient nous dire encore hier et aujourd'hui, puisqu'on a continué de voter aujourd'hui, que malheureusement, ils ne comprenaient pas exactement la raison pour laquelle ils votaient, mais que pour la présidentielle, oui, ils iront voter.
C'est justement la question que d'aucuns se posent, Tatiana. Est-ce que le pays sera prêt pour la présidentielle dans seulement 2 semaines ?
Le délai de 2 semaines est très court, mais ils veulent absolument tenir le calendrier. Écoutez, ici, on essaye de tout faire pour que oui, mais certains observateurs vous disent que le scrutin qui a été assez difficile et complexe hier ne laisse pas présager un scrutin plus facile, ou du moins pour le premier tour de la présidentielle.
Merci Tatiana Mousseau, envoyée spéciale de VOA Afrique à Bangui en RCA.
Et des Burundais réfugiés au Rwanda sont recrutés par des groupes armés en violation du droit international. C'est ce que dénonce l'ONG Refugees International, qui appelle dans un rapport publié aujourd'hui la communauté internationale à sanctionner les responsables. Dans ce rapport intitulé « Droit d'asile mis à mal, recrutement de réfugiés burundais au Rwanda », l'ONG américaine pointe du doigt le recrutement de réfugiés burundais à l'intérieur du camp de réfugiés de Mahama, dans le sud-est du Rwanda, par des groupes armés non étatiques, dont le recrutement d'enfants. Le gouvernement rwandais a démenti le contenu de ce document. Alors pour faire le point, Jacques Aristide s'est entretenu avec la co-auteure du rapport, Francisca Vigowacz.
Il faudra que je clarifie d'abord qu'on n'est pas en train d'accuser le gouvernement rwandais de recruter des réfugiés. En fait, on ne fait que partager tous les détails des allégations qui ont été partagées avec nous, avec le but que ça soit investigué. Sur quoi est-ce que ça se base? Au moins 50 réfugiés qui ont cherché de la protection dans les camps de Mahama, les camps des réfugiés au Rwanda, et le nouveau camp des réfugiés burundais, plus 30 réfugiés qui sont devenus des combattants, il paraîtrait, et qui ont été en train de transiter, être transportés vers le Burundi, mais ils ont été arrêtés par les forces nationales et congolaises, et le FARDC. Donc, on a eu accès à tous les témoignages de ces à peu près 80 réfugiés, y compris des enfants.
Nous savons que le gouvernement burundais avait déjà reproché au Rwanda d'accueillir des opposants burundais et de laisser faire le recrutement d'opposants dans ces camps. Mais la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de même que sa collègue en charge des réfugiés, ont formellement démenti ces allégations. Avez-vous pu recueillir la réaction de Kigali à votre rapport ?
En fait, ce que nous avons fait, nous avons pris comme une réponse officielle le discours assez long qui a donné la ministre en charge des affaires des réfugiés, qui était publiquement délivrée devant la presse internationale. Et puis, aujourd'hui, déjà, le gouvernement rwandais a réagi à notre rapport et a démenti les allégations à nouveau.
Brièvement, quelles sont vos recommandations?
Numéro un, on est déjà au sixième mois de ces allégations et à chaque fois, le gouvernement rwandais réfute les allégations d'un seul coup. On aimerait bien que le gouvernement rwandais prenne ces allégations sérieusement et travaille avec le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, le HCR, pour investiguer ces allégations et donner des protections aux camps et aux réfugiés dans les camps. Et deux, l'HCR doit augmenter leur présence de protection. Ils doivent embaucher plusieurs agents de protection pour travailler dans les camps, pour voir ces cas et essayer de donner de protection aux réfugiés burundais. Et troisièmement, c'est la responsabilité du gouvernement rwandais d'assurer le caractère civil du camp des réfugiés pour leur protéger, étant donné que ces réfugiés sont sur leur terrain. Ils doivent assumer cette responsabilité.
C'était Francisca Vigo-Walsh, co-auteure du rapport.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Au Cameroun, le gouvernement a demandé aux agriculteurs de ne rien planter pour la prochaine saison jusqu'à ce qu'ils puissent s'assurer qu'il y aura assez de pluie. Le climat plutôt imprévisible de ces dernières années s'est traduit par de longues sécheresses et de faibles productions. Voici, rendu par Idrissa Seloudia, un reportage réalisé à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, par Moki Edwin Kinzeika.
Ndoukong Kennedy, 42 ans, élève des poulets à Santa dans la banlieue de Babenda. Il cultivait auparavant de l'arachide, mais a connu deux mauvaises récoltes consécutives dues à une pluviométrie insuffisante. Les pluies commencent d'habitude au mois de mars.
Final rain came about end of April and the sun was hot.
Les pluies ne sont venues qu'à la fin d'avril et le soleil était tellement chaud qu'il a, pour ainsi dire, fini par frire l'arachide sur place. Nous avions l'habitude de préparer nos champs pendant la saison sèche en sachant que les pluies commenceraient le 15 mars. Mais maintenant, on ne sait plus. Henri Mouma Awa, le principal responsable gouvernemental chargé de l'environnement à Bamenda, a demandé aux agriculteurs de ne rien planter en 2016 jusqu'à ce qu'il leur donne le feu vert.
There's confusion in the rainfall pattern. We call it a distorted rainfall pattern.
Il y a confusion sur la pluviométrie. Avant, nous savions que nous avions une saison sèche et une saison des pluies précises. Maintenant, rien n'est plus très certain. Le rendement a baissé pour certaines cultures à cause de cette situation. Les températures ont aussi augmenté à cause du déboisement abusif et il y a beaucoup de CO2, de gaz carbonique, dans l'atmosphère. Selon les Nations Unies, la température moyenne moyenne par an a augmenté de 0,7 degrés Celsius depuis les années 1960. Pendant la même période, les pluies ont baissé de 2,2% par décennie. L'écologiste Nestor Bouma blâme l'homme pour cette dégradation. Plus de 80 à 90% de la population utilise du bois pour satisfaire ses besoins énergétiques. Cela pousse la population locale à abattre des arbres et conduit à un usage abusif du bois dans les foyers. Dépendant de la région, on commence à planter de la mi-mars à juin au Cameroun. Il est difficile de dire combien d'agriculteurs sont affectés par l'appel des autorités d'attendre leur feu vert. Mais 70% des 22 millions de Camerounais dépendent de ce secteur primaire, dont beaucoup dans l'agriculture de subsistance. Pour le moment, le Cameroun ne signale pas de pénuries alimentaires aiguës, mais il y avait un déficit céréalier de 200 000 tonnes l'année dernière. Les prix des haricots, de la pomme de terre et du maïs ont augmenté de 25% ces dernières années, selon le gouvernement, à cause d'une stagnation de la production dans certaines régions.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Trois ministres des Finances en Afrique du Sud en l'espace d'une semaine. Sous la pression des milieux financiers et de l'ANC, son parti, le président sud-africain Jacob Zuma, a rappelé dimanche à ce poste Pravin Gordhan, en remplacement de David Van Rooyen, lui-même nommé quatre jours plus tôt. Le limogeage de leur prédécesseur, M. Néné, avait fait chuter la monnaie nationale, le rand, à son plus bas niveau de l'histoire. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria.
Pravin, c'est l'ancien directeur des impôts, nommé déjà ministre des Finances sous le premier mandat de Jacob Zuma. C'est un monsieur qui est perçu comme sans une certaine intégrité et surtout un réformiste qui devait mettre de l'ordre dans les finances, et c'est lui qui rassure un peu le marché. Depuis la crise qu'il a opposée à Jacob Zuma sur la compagnie South African Airways, la compagnie aérienne sud-africaine, Gordhan a été remercié sans autre forme de procès. Et malheureusement, ces derniers temps, je crois qu'avec des problèmes que Zuma a eu sur la même compagnie South African Airways, son remplaçant a été viré. Un autre, David Rooyen, qui a été nommé, suscitant vraiment la colère des Sud-Africains et des partenaires de l'Alliance tripartite, ce qui a obligé Zuma à revoir sa décision et à faire revenir Pravin Gordhan à la tête des finances de l'Afrique du Sud.
Trois ministres des Finances dans l'espace d'une semaine. Qu'est-ce qui explique cette instabilité de l'action du président Zuma?
C'est d'abord une décision émotionnelle, une décision personnelle qui a été prise sans consultation des membres de son cabinet. Et cette décision que d'aucuns percevaient comme anticonstitutionnelle a suscité des réactions très négatives à son égard, même au sein même de son propre parti, exposant en tout cas sa fragilité et craignant de se voir isolé, surtout de donner du contenu aux appels pour sa destitution qui se font de plus en plus fort. Je pense que Zuma a fait semblant de donner l'impression qu'il a écouté les réactions de son peuple et qu'il a essayé de rajuster son tir.
Le président sud-africain sort nettement affaibli de cette situation. Qu'est-ce que cela augure pour son action future?
Je pense que ça ne vient que renforcer une perception déjà négative que les Sud-Africains ont de leur président. En plus de 56 et 60% des Sud-Africains pensent que Jacob Zuma n'est pas tout à fait capable de diriger l'Afrique du Sud, présente des faiblesses et ne commet que des erreurs. C'est certaines décisions clés qu'il prend. Et je pense que cela n'augure pas très bien pour l'héritage politique que Zuma a envie de laisser pour l'Afrique du Sud. L'économie qui chute, l'économie ne croit pas, le chômage qui reste tout à fait effrayant pour le pays, le rand qui paie de sa valeur chaque jour. Ce ne sont pas des indicateurs qui rassurent les investisseurs. Et je pense qu'en grande partie, cela est dû aux incertitudes suscitées par le leadership de Zuma.
David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria.
Et c'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui a assuré la production ce soir. À la présentation, Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.